Voilà, nous bénissons le Seigneur qui fait grâce et qui nous permet en tant qu'Église d'être rassemblés, de le louer, de le célébrer. Et comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un temps privilégié où nous pouvons être au bénéfice des prières des uns et des autres, de la reconnaissance. C'est un espace que Dieu nous donne pour que nous puissions exprimer notre reconnaissance dans l'Assemblée des Saints. Que Dieu nous aide pour que nous puissions, dans notre culte, continuer à avoir ce privilège de nous encourager par la prière, de nous écouter et de laisser Dieu nous bénir les uns les autres. Merci Seigneur. C'est le temps de la prédication, de l'annonce de la parole de Dieu. Nous avions, dimanche dernier, commencé avec ce thème, une vision d'amour, n'est-ce pas ? Une vision d'amour. Il me semble que c'est un thème important. Il me semble que même si nous, en tant que chrétiens, nous sommes convaincus que notre Dieu est un Dieu d'amour, il me semble que la manifestation de cet amour doit être grandissant en nous. Et que peut-être, avec un pincement au cœur, le constat c'est que quelquefois, nous avons stagné dans l'amour de Dieu. Nous nous sommes arrêtés à un certain niveau. Nous n'avons pas progressé dans l'amour de Dieu. Et j'aimerais nous encourager ce matin à progresser, à aller de l'avant. Car cet amour doit être manifeste dans nos vies. J'ai rappelé quelques textes, n'est-ce pas, la semaine dernière. Celui de 1 Jean chapitre 2 verset 5 qui dit « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Comment manifester l'amour de Dieu? C'est en gardant la parole de Dieu. Garder, c'est pas juste connaître intellectuellement. Certes, c'est connaître. Mais connaître pour méditer. Méditer, ça veut dire que je réfléchis à cette parole parce que je suis convaincu que cette parole doit avoir un impact sur moi. Doit m'influencer positivement. C'est ça la méditation. Une fois que j'ai traversé cette étape, l'étape d'après, c'est la pratique. C'est la mise en œuvre. Jésus avait pour coutume de dire « Heureux celui qui entend. » Mais qui entend, pas pour oublier, mais qui entend pour la mettre en pratique. Il dit « Car nous avons deux types d'auditeurs. Celui qui entend, qui garde, mais qui ne pratique pas, il dit « Il est comme une maison qui a été bâtie sur du sable. » Le vent s'est levé, la tempête s'est déchaînée, l'eau a débordé et cette maison a été emportée parce qu'elle n'était pas fondée sur la pratique de la parole. Il dit le deuxième, c'est celui qui entend, qui écoute, qui médite et qui prend celui de pratiquer cette parole, de reconnaître qu'elle est autorité sur sa vie. Il dit, celui-là est comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, la tempête s'est levée, les eaux ont débordé, mais elles n'ont pas pu emporter cette maison parce qu'elle avait un fondement solide. Que Dieu nous aide. Que notre foi chrétienne soit une foi qui gagne en maturité, mois après mois, année après année. Et que cet amour de Dieu nous pousse à nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Il dit, voici le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le deuxième qui lui est similaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'amour de Dieu commence par l'amour du prochain. Commence par l'amour des frères et sœurs en Christ. Mais Jésus allait plus loin. Parce que pour les Juifs aussi, l'amour, c'était l'amour pour son compatriote juif. Et Jésus allait plus loin. Il dit l'amour du prochain. Et ce maître de la loi lui a posé la question, mais qui est mon prochain? Et Jésus a pris l'exemple le plus difficile pour un juif. Il a pris l'exemple d'un n'importe qui et qui n'est pas du tout un juif et qui est accidenté Et Jésus met en scène plusieurs personnes qui passent, un sacrificateur, un homme pieux, et il dit enfin, qui passe c'est un samaritain, celui que le juif a une aversion pour lui, celui que le juif ne considère pas comme enfant de Dieu. Il dit, ce samaritain qui passe, c'est lui qui a la meilleure attitude, qui est sensible à celui qui est blessé, qui ne le regarde pas comme un paria de la société, qui penche son cœur vers lui, qui ne lui dit pas, oh, courage, non. Qui lui dit courage, certes, mais qui va le chercher dans sa blessure, qui le relève, qui ne fait pas que le relever, qui le conduit pour être soigné. Qui ne fait pas que le conduit pour être soigné, qui donne même de quoi le soigner. Et qui demande qu'on en prenne soin. Et Jésus dit, qui a été le prochain du blessé? Ben, c'est le Samaritain. Notre prochain, frères et sœurs, ce n'est pas que le chrétien, ce n'est pas que celui qui nous fait du bien. C'est tout être humain, qui qu'il soit. Pire, c'est même notre ennemi, notre adversaire, quelquefois, qui est notre prochain. Et l'amour de Dieu, s'il veut être manifesté dans le monde, les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de manifester cet amour vis-à-vis des non-croyants, des non-chrétiens. N'oublions pas que nous étions, nous aussi, non-chrétiens, il y a quelques années de cela. N'oublions pas que la grâce, justement, veut dire que nous n'avons pas mérité d'être chrétiens, que c'est Dieu qui nous a fait grâce. Nous avons eu cette grâce de répondre oui à l'appel de Dieu. C'est là notre grâce à nous. De sorte que nous devions être sensibles à ceux qui n'ont pas encore fait le pas de la foi. Nous devons être sensibles. Parce que il nous faut être convaincus d'une chose. Sans Dieu, l'homme ne peut pas être transformé. L'homme peut avoir l'apparence d'une éthique morale bonne, mais il ne peut pas être transformé de l'intérieur. Si ça arrivait, c'est que la Bible est un amas de mensonges. Mais la Bible est la vérité, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que dès les origines, Adam et Ève ont péché et que malheureusement, ils ont induit dans la lignée humaine le péché. Cette tendance à faire plus le mal que le bien, que ce soit en pensée, en parole, en acte et même par omission. C'est-à-dire le bien qu'on devait faire, qu'on a oublié de faire. C'est ça le péché par omission. Il y a des choses bonnes que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas. Pas parce que nous ne voulons pas, parce que nous oublions. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Dans Romains 3, 23, il est dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul qui peut se taper la poitrine pour dire, moi, sans péché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors nous devons être humbles. Lorsque Dieu nous a touchés, qui nous a transformés, son amour nous rend humbles quand nous voyons des non-chrétiens, quand nous vivons avec des non-chrétiens. Parce que c'est par là que Dieu va leur parler aussi. C'est par l'amour que nous allons manifester que Dieu leur parlera. N'est-ce pas? Et nous savons aussi, comme je l'ai décrit dimanche dernier, que malheureusement, quelle que soit l'apparence de cet évangile, dit en griffe évangile, du matérialisme, qui dit, plus tu as de bien, plus tu as des choses, on va dire, dans le progrès actuel, plus tu te sens bien. On sait bien que c'est pas vrai. C'est vrai que les choses matérielles nous aident et nous en avons besoin. C'est pas ça le propos. Dieu dit, cherchez Dieu et sa justice et toute chose sera donnée. Donc Dieu sait que nous avons besoin des biens matériels. C'est pas ça. La question ici, c'est quand les biens matériels deviennent notre seule valeur de bonheur. Quand notre bonheur essentiellement se trouve dans ce que nous avons. C'est bien triste parce que le jour où ces choses vont partir, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors que Dieu demeure éternel. Il ne part jamais. Il est toujours présent. Son amour est éternel. Donc de ces deux valeurs, comme on dit, il n'y a pas photo. Il y a celle qui est éternelle. Il y a celle qui est passagère. Pendant que nous sommes de passage, servons-nous de ces choses. Utilisons ces choses, mais ne laissons pas ces choses nous utiliser. Ne laissez pas ces choses, ne laissons pas du moins ces choses nous dominer. C'est nous qui devons être maîtres de ces choses. Et Dieu veut nous aider à le faire. Et nous savons donc que pour ceux qui n'ont pas Christ, Malheureusement, il y a toujours ce vide. Il y a toujours ce vide. Et on le comble par bien des choses. Et nous étions de ce nombre-là. Il y avait aussi ce vide en nous. Et nous le comblions par des choses, n'est-ce pas? Nous cherchions des choses pour nous satisfaire. Parce que, quel que soit l'itinéraire d'un homme ou d'une femme, il y a toujours un moment où ce manque se fait sentir. Et justement, c'est à ce moment-là que Dieu s'approche de nous. Et pour tous qui sommes là, si nous avons fait l'expérience de la conversion, nous pouvons nous rappeler que c'était l'un de ces moments que Dieu a choisi pour nous rapprocher de lui. Et que ce vide a été comblé par la présence de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, l'amour du monde, pas le monde sans Dieu, mais quand on dit l'amour du monde, c'est l'amour des hommes qui sont dans le monde et qui n'ont pas Dieu. Cet amour doit rester présent. L'amour des hommes pécheurs, que nous étions du reste, doit rester présent dans la vie d'un chrétien. Notre monde, qui est un monde de consommateurs extrêmes, parce que la consommation est utile, mais consommateur extrême, est un monde spirituellement pauvre. Ce monde est un monde pauvre. Ce monde pauvre a aussi une forme de désintégration morale, c'est-à-dire que, comme on le dit de façon plus simple, on ne sait plus ce qui est bien de ce qui est mal. Chaque société établit son code. Telle société dit voilà ce qui est bien, ce qui est mal. Et dans le même temps, dans l'autre société, ce qui est bien dans une autre est mal dans l'autre société. Et on ne comprend plus. Et les repères sont brouillés. Et les hommes sont embrouillés eux-mêmes. Et il y a une forme de désintégration morale. Notre monde nous donne l'idée que les choses vont bien. Nous donne l'idée que tout est respectueux. En tout cas, quand on est de cette partie de l'hémisphère, n'est-ce pas? Mais quand on est dans les tropiques, sous les tropiques, quand on est parfois dans des îles reculées et que nos sociétés sont des sociétés troublées par des conflits, on se rend compte que l'homme peut être et que la vie peut être difficile. Mais quand on est ici, il y a une apparence de paix, une apparence de bien-être. Mais quand il y a les mouvements sociaux, on sent que ce bien-être est fragile, n'est-ce pas? Quand il y a des grèves, comme ce que nous avons vécu, ce qu'on appelle la grève perlée de la SNCF, on sent. Quand dans le mois de mai, tous ceux qui en veulent un peu descendent dans la rue, on sent que finalement, c'est une apparence. Parce que tout n'est pas réglé, tout n'est pas stable. Quand on entend nos politiques, on peut aussi s'en convaincre. Parce que tout le monde a la solution, mais le peuple, il attend toujours la solution. Bref, on a longtemps dit que l'être humain est capable d'apporter le bonheur. C'est vrai, mais en partie. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Oui, Dieu a instruit en nous fortement la force d'apporter le bonheur à l'autre. Heureusement que Dieu a gardé cette force en l'homme d'apporter le bonheur. Sinon, notre humanité ne serait que chaos et destruction. Mais d'un autre côté, on ne peut pas apporter le bonheur parfaitement, ni complètement. La preuve la plus forte pour moi, dans ma petite expérience, c'est quand un homme et une femme se mettent ensemble, par amour, n'est-ce pas? Qu'on soit marié, concubin ou copinage, toujours la base, on dit, on s'aime. Et quand les mois passent, quand les années défilent, parfois on est bien là, c'est à s'étonner. Mais où est passé cet amour dont il parlait? Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Des gens qu'on a vus étreints, solides, l'un envers l'autre. Parce que la vie est ce qu'elle est. Parce que nos cœurs, comme le dit Jérémie, nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. Qui connaît le cœur de l'homme? C'est Dieu. Alors nous sommes invités à vivre un amour vrai, un amour authentique, un amour qui s'appuie sur la parole de Dieu. J'ai donné l'exemple de Salomon qui a dit, lui, il a pensé que faire tout ce que ses yeux voyaient, faire tout ce que son argent pouvait acheter, lui apporterait le bonheur. Il a fait tout ça, il dit, j'ai tout fait. Et il dit, Ecclésiastes chapitre 2 et après au chapitre 12, il dit la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que tout est vanité et poursuite du vent. Et que rien n'est stable. Et que rien n'apporte le bonheur stablement. Que tout est un cycle. Aujourd'hui, tu as le bonheur, demain, tu as le malheur. À quoi ça sert tout ça? Il se pose la question, à quoi sert-il? Et à la fin de son livre, à la fin de l'Ecclésiaste, il dit, mieux vaut craindre Dieu, car c'est cette valeur-là qui est sûre. C'est cette valeur-là qui est sûre. Alors, cette crainte de Dieu nous conduit à ce texte fort dans l'Épître aux Romains, toujours pour parler de l'amour de Dieu pour notre monde, pour les hommes, et pour nous inviter, nous aussi, à nous rappeler ces choses et à les vivre de façon forte. Romains chapitre 1, versets 18 à 31. Et je fais la lecture dans la version seconde. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes, leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quel sombre tableau! Quel sombre tableau! La Bible dit, comme notre humanité a refusé de connaître Dieu et s'est dit elle-même, elle peut s'en sortir elle-même, elle est son propre Dieu, Dieu a dit, ok, faites comme vous voulez. Et le résultat, il est catastrophique. Car qu'est-ce qui sort de ces rejets de Dieu? C'est l'injustice, c'est la méchanceté, c'est la cupidité, c'est la malice, c'est la jalousie, c'est le meurtre, c'est les querelles, c'est les ruses pour faire du mal à l'autre, c'est les rapporteurs, les calomniateurs, c'est la médisance, c'est l'impiété, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, c'est fanfaronner, c'est être tellement intelligent pour faire le mal, c'est être rebelle à ceux qui sont des autorités comme les parents, c'est dépourvu d'intelligence selon Dieu. C'est d'être des gens qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas fidèles, qui n'ont pas de miséricorde. Quel triste tableau, frères et sœurs. Voilà le constat de notre monde sans Dieu. Nous sommes dans ce monde, nous étions de ce nombre-là, mais la question que je pose à moi et à vous qui êtes chrétiens, est-ce que nous ne continuons pas de vivre dans ces choses-là, nous aussi? Est-ce que nous ne continuons pas de vivre dans ces choses-là, nous aussi? Si c'est le cas, ressaisissons-nous. Si c'est le cas, relevons-nous. Si ce n'est pas le cas, demeurons fidèles. Continuons d'avancer. Ces textes de Romains montrent bien que l'homme a échangé le mensonge contre la vérité. De toutes les façons, on est dans un monde qui a développé une théorie qui s'appelle le relativisme. Il n'y a pas une vérité. Chacun a sa vérité. Il n'y a pas un seul Dieu. Chacun peut avoir son Dieu. Tout chemin mène à Rome de toutes les façons. Que tu sois athée, bouddhiste, musulman, hindouiste, bouddha, maradi, et que sais-je encore, tu iras au ciel, t'en fais pas. Pourquoi les hommes chercheraient-ils Dieu en ce moment-là? Puisque tout chemin mène à Rome. Oui, certes, tout chemin mène à Rome. Mais dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est celle de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui de Jésus-Christ. Et qu'arrive-t-il alors, frères et sœurs, lorsque le monde se laisse conduire dans cette dislocation? Notre monde, dans lequel beaucoup de gens se rendent compte qu'en fait, ils tournent en rond, cherche des solutions, cherche une solution. Et on cherche des solutions ça et là, dans bien des choses, dans bien des philosophies, dans bien des pratiques. Et ce qui m'étonne, c'est que dans cette société dite post-chrétienne, le réflexe tout de suite quand les gens cherchent une spiritualité, c'est pas dans la foi chrétienne. C'est dans tout ce qu'on appelle ce qui vient de l'Orient, n'est-ce pas? Dans tout ce qui vient de l'Asie, la zénitude, la méditation, la sophrologie et toutes les logiques que vous voulez, on va les chercher là-bas, avec toutes les pratiques que cela entraîne, tout ce qu'il faut savoir faire comme maîtrise de son corps pour y arriver. Alors que la parole de Dieu dit, la vérité t'affranchira et tu seras réellement libre. Et cette vérité, c'est le Christ. En l'acceptant dans ton cœur, en l'acceptant dans ta vie, il t'apportera une paix, un bonheur. Certes, la vie sera toujours avec ses hauts et ses bas, mais ce qui aura changé, c'est que tu auras quelqu'un avec toi, le Dieu solide et certain. Alors, nous sommes encouragés à garder l'amour de Dieu, frères et sœurs, parce que notre monde, malheureusement, et dans notre société d'aujourd'hui, l'isolement social est là. Et les nouvelles recherches, les nouvelles découvertes n'ont pas arrangé la situation. Il semble que certains ont quelquefois 10 000 amis. Est-ce qu'on peut avoir 10 000 amis? C'est presque impossible. Mais on les a sur les réseaux sociaux. On a tous ces amis virtuels qu'on ne connaît pas, mais qu'on a. Avec qui on échange plein de choses. C'est pas mauvais en soi. Mais la relation n'est plus là. Et quelquefois, des gens qui ont 10 000 amis sur Facebook sont quand même isolés. Ils sont quand même isolés. C'est incroyable. Je me souviens, et ça arrive tellement régulièrement que c'est alarmant, des gens du troisième âge qui décèdent parce que vivant seuls dans leur appartement, et on les découvre quelquefois plusieurs mois après. Et il y a 3 ans de cela, on a découvert même une qui était morte plusieurs années après. Et le pire dans ce drame qui était un fait divers, c'est que sa fille savait, mais elle n'avait pas déclaré, parce qu'elle utilisait tous les biens de la mère, tant qu'elle n'avait pas déclaré décédée. Quelle tristesse. Parce qu'elle était sûre que de toutes les façons, personne ne verrait le poteau rose, puisque sa mère vivait seule, isolée. Dans une société où on se visite régulièrement, est-ce que ça peut arriver? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais dans une société où même avec nos voisins, je ne parle pas quand on a depuis quelques mois, mais quand on l'a depuis quelques années, si les bons jours sont encore difficiles, c'est un problème. L'isolement social, frères et sœurs, il faut que nous en rendions compte. Nous avons cette grâce d'être des chrétiens et donc de jouir de la communion de l'Église, de la fraternité que nous avons. Et quelles que soient les origines qu'on a, une fois qu'on est chrétien, qu'on arrive dans un pays, et moi je peux vous le dire avec certitude parce que j'en ai tellement fait l'expérience, Dans le ministère que j'avais avant de devenir pasteur, j'étais responsable des GBU, des groupes publics universitaires, j'étais missionnaire, et on voyageait pas mal. Mais j'étais toujours agréablement surpris. Quel que soit le bout de terre où on avait un séminaire, il y avait toujours une église, des chrétiens, des familles pour nous accueillir. C'était incroyable. Et on partageait les mêmes convictions chrétiennes. Et que quelquefois, dans des séminaires où on pouvait être, je sais pas moi, 900, 800, de 130 pays dans le monde entier, on avait la même conviction. Christ est Seigneur. Et on parlait des mêmes choses. C'était une expérience formidable. Donc, je pense que c'est rare de trouver un chrétien engagé qui soit isolé dans une église vivante. Parce qu'il y a quand même cet effort de relation. Mais dans le monde, il n'en est pas ainsi. Il y a des personnes isolées. Il y a des personnes isolées. Il faut en être conscient. Et notre amour doit être là. Notre amour doit être là pour faire attention à ces gens qui sont isolés. Et il y a un témoignage que je veux lire, qui parle justement de cet isolement. La personne s'appelle Greta, elle était une juive autrichienne, et voilà son témoignage. Elle était encore jeune lorsqu'Hitler occupa son pays. Étant juive, elle devait impérativement fuir. Elle réussit à gagner la Grande-Bretagne après la guerre. Elle rencontra un Anglais qu'elle épousa. Il eut une vie heureuse, mais à la mort du mari, la vie de la femme vola en éclats. Elle ne voyait qu'un avenir de solitude et dépourvu de sens sans son mari. Seule et déprimée, elle envisagea le suicide. Le soir qui suivit les obsèques, elle rassembla tous les comprimés qu'elle avait chez elle, les aligna sur la table et décida d'en finir avec la vie en les avalant tous. Il était 11h du soir. Elle était seule à la maison. Juste à ce moment-là, elle entendit frapper à la porte de la buanderie. Le Seigneur avait mis sur le cœur d'une voisine chrétienne, peinée par le deuil de Greta, d'aller lui rendre visite. Ce rayon d'amour et de sollicitude perça les effroyables ténèbres qui l'emprisonnaient et empêcha Greta de se donner la mort. Dans les semaines qui suivirent, elle trouva la paix avec Dieu. Et elle dit, « Ma voisine m'a conduit au Seigneur, dit-elle. Et maintenant, oh combien j'aime le Seigneur. » C'est un témoignage authentique. L'amour de Dieu. Dieu nous donne son amour pour que nous le manifestions vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu, frères et sœurs. Objectivement, en tant que chrétien, je suis convaincu de l'amour de Dieu. C'est le contraire qui m'étonne. Sinon, je m'attends toujours à ce qu'un chrétien manifeste l'amour. Donc, je n'ai pas besoin d'une démonstration d'amour d'un chrétien. Parce que si c'est un chrétien, si c'est une chrétienne, elle va démontrer l'amour. N'est-ce pas? Par contre, un non-chrétien, il a besoin de cette démonstration-là. Il a besoin de cette vie-là. Et cette démonstration n'est pas... Nous ne sommes pas des acteurs de cinéma. Nous ne feignons pas d'aimer les gens. Nous devons être des gens qui aiment naturellement. Et Dieu veut que nous cultivions cet amour. Je prie que cette église continue à grandir dans l'amour de Dieu. Les uns avec les autres, bien sûr. Mais que notre amour pour les gens qui nous entourent, pour là où nous vivons, continue d'être manifesté. Pour qu'ils voient l'amour de Dieu. Pour qu'ils voient l'amour de Dieu. Pour qu'ils voient l'amour de Dieu. Combien de gens dans notre environnement, dans nos églises, souffrent de la solitude? Combien de gens? Je me souviens d'un de mes collègues, pasteur ici en Île-de-France, qui nous rendait un témoignage de quelqu'un de son église. C'était une maman. Ce collègue est un collègue français blanc, on va dire. Et dans son église, c'est une musique multiculturelle comme la nôtre. Et il y avait une mamie originaire de l'Afrique qui était toujours un peu dans son coin. C'est vrai que après les cultes, on faisait la collade et tout le monde faisait la collade. Mais il sentait quand même qu'elle était dans son coin. Et puis un dimanche après le culte, il a dit, « Mamie, ce midi, je mange chez toi. » Elle était étonnée parce que personne ne lui avait jamais proposé d'aller manger chez elle. à cause de sa modestie, elle n'a jamais osé aussi inviter personne chez elle. Vous savez, quand vous êtes dans des endroits modestes, c'est pas la première chose que vous aimez faire que d'inviter les gens. Parce que vous avez une forme de pudeur aussi. Et ça l'a touché. Que ce frère, le pasteur, mais j'ai rien prévu. Il dit, mais c'est pas grave, ce que tu as prévu pour midi, on mange ensemble. Dieu avait touché ce collègue pour aller vers cette mamie. Et ça a changé la vision de la mamie dans l'église. Et après cela, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais de ce témoignage de mon collègue, et ça fait bien des années qu'il nous a témoigné cela, ça me touche. Et c'est pour cela que quand j'ai encouragé l'église, j'ai dit, parfois, dans les repas fraternels, faisons en sorte de ne pas être assis toujours avec les mêmes frères et les mêmes sœurs. Même si on peut le faire, et ce n'est pas un péché de le faire. Mais quelquefois, on a besoin aussi de tisser d'autres relations dans l'église. Et c'est comme ça qu'on apprend à tisser des relations, à faire du bien aux gens. Et ça déborde ensuite à l'extérieur, dans là où nous vivons, parce que nous avons appris à le faire. Nous, les chrétiens, nous devons apprendre par amour à construire des relations. C'est un défi. Pas n'importe lesquels, bien sûr, n'est-ce pas? Parce que l'Évangile aussi nous avertit sur un certain type de relation. Donc, il y a un avertissement. Mais soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Je prie que cet amour nous aide à être sensibles. Aussi dans la prière, quelquefois, Dieu ne va pas forcément nous dire « va visiter » comme cette femme qui allait visiter Greta. Mais Dieu va nous mettre à cœur de prier pour notre voisin qui ne connaît pas Dieu. Pour notre voisine, pour notre collègue. C'est une forme d'amour que de prier pour quelqu'un avec laquelle ou avec lequel on n'a pas forcément de relation profonde. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Et nous sommes invités aussi à manifester cet amour-là, à prier pour. Quand nous étions encore à l'église de Corbeil, il y a un frère qui était très touché par l'une de ses collègues. Il a partagé avec son épouse, il priait régulièrement pour cette collègue-là. Et puis, au fil des années, cette collègue a commencé à savoir qu'il était chrétien et quand elle traversait une certaine situation, naturellement, elle venait vers lui demander conseil. Au départ, il ne comprenait pas. Au départ, il faisait attention parce que voilà, c'est un homme, une jeune femme s'approche pour demander conseil. Donc, quand il rentrait régulièrement, il partageait avec son épouse. Et ils ont prié. Et il a eu la conviction que les autres fois où elle viendrait, qu'il lui envoie aussi des textes bibliques qui touchent à la situation qu'elle lui présentait. C'est comme ça. Au fur et à mesure, il a commencé à partager la parole de Dieu avec elle. Jusqu'au jour où il lui a offert une Bible et qu'elle a commencé à lire la Bible. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Notre amour est un amour qui doit être manifesté. Devant ce tableau sombre de Romains 1, 18 à 31, nous devons avoir l'autre tableau de l'amour de Dieu avec des fruits de l'esprit dont nous avons parlé au cours de l'année. Que la vision de Dieu nous transforme. Que nous soyons des hommes et des femmes pleins d'amour de Dieu dans nos relations. Où qu'elles soient ces relations-là, qu'elles soient dans notre couple, avec nos enfants, avec nos voisins. Que Dieu puisse vraiment manifester cet amour. Et que les hommes et que les femmes avec lesquelles nous vivons puissent être attirés, puissent être convaincu. Et ce travail, c'est pas le travail du conseil de l'église. Non. Cette vie-là, c'est la vie de chacun de nous. Chacun de nous. Si nous continuons à progresser dans notre vision d'amour les uns pour les autres et les uns vis-à-vis de là où nous vivons, Dieu continuera d'attirer des hommes et des femmes à lui. De façon puissante. De façon puissante. Je termine par mon propre témoignage. Si mon cousin, et je l'ai rendu souvent ce témoignage, nous étions jeunes, nous étions étudiants, si mon cousin qui était chrétien, je le savais, mais je ne savais pas de quel chrétien il était, moi le seul chrétien que je connaissais c'était catholique, et les autres c'était tous des protestants. Moi j'étais catholique à ce moment-là. Je savais qu'il était protestant, mais il était bizarre. Bizarre parce qu'il était jeune comme moi, il ne faisait pas toutes les bêtises qu'on faisait en tant que jeune. Mais il ne me reprochait rien. C'était incroyable. Il ne me suivait pas, mais il ne me reprochait pas non plus. À un moment donné, je me suis questionné quand même. Et même, je lui ai fait des choses. Je me souviens qu'une fois, Et je lui ai dit après, j'ai même vendu sa montre. Une montre que sa sœur lui avait envoyée de l'Europe. Il ne s'était pas rendu compte. Il croyait qu'il avait perdu cette montre. Mais quand je lui ai dit, il a dit, oh, tu aurais dû me le dire, tu n'aurais pas dû faire ça. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais dû m'en parler. Mais c'est une montre. Mais ça ne m'a pas converti. On a fait 3 années ensemble. C'est que quand nous sommes arrivés à l'université et que je traversais un moment où j'avais peur de la mort, où j'avais besoin de quelqu'un pour me dire quelque chose de Dieu, je savais qu'il n'y avait que lui qui pouvait me dire. Que même mon ami le plus intime ne pouvait pas être la personne de référence. Parce que ce soir-là, mon meilleur ami était là dans la chambre avec moi, mais c'était pas lui qui m'apportait cette consolation. Au contraire, lui, il me disait quand je parlais de Dieu, il dit, tu sais Serge, moi j'ai un oncle qui est pasteur, il m'a dit que tous ceux qui sont sauvés, ils sont déjà arrêtés. C'est dans Apocalypse. Ils sont 12 000. Je dis, 12 000. Je dis, mais d'où tu sors ces tests-là? Il dit, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Il avait pas tort. Il y a un test dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui parle des élus et des rachetés, avec un nom précis. Mais c'est une partie du texte. C'est qu'une partie du texte. Et ce texte parle des Juifs. Mais ensuite, le texte dit, « Et je vus devant le trône de l'agneau des milliards et des milliards de tous ceux qui ont donné. » Et c'est mon cousin qui m'a relu ce texte dans toute son entièreté. Qui m'a dit, « Oui, ton ami a raison, sur la première partie du texte, c'est vrai. Mais sur la deuxième partie du texte, c'est pas vrai du tout parce que le salut est pour tout le monde. Mais tu n'es pas dans ce tout le monde, Serge. » Pour la première fois, il a été clair. Il dit, tu n'es pas dans ce tout le monde. Pour être dans ce tout le monde, il faut que tu aies Jésus dans ton cœur. Tu es religieux, Serge, mais tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Et il m'a lu l'évangile. Et il m'a dit, veux-tu accepter le Seigneur dans ton cœur? Ça m'a marqué. Parce que c'est quelqu'un qui m'a manifesté de l'amour avant de m'annoncer Jésus-Christ. Et du coup, quand les deux choses se sont mises ensemble, Dieu a percé mon cœur. Et aujourd'hui, je vois toute la force du témoignage d'un chrétien. D'être simplement chrétien sans forcément mettre en rouge ou en noir sur notre front chrétien, chrétienne, ça ne sert pas à grand-chose. C'est de vivre ce que nous sommes. Et les gens que Dieu mettra sur nos chemins, à un moment donné, se référeront à nous. Une vision d'amour, frères et sœurs. Une vision d'amour. Que nos vies soient baignées dans cette vision d'amour. Que nous soyons des pratiquants de l'amour, et non pas des théoriciens de l'amour. Souvent, nous sommes devenus des théoriciens. Nous savons tous les versets qui parlent d'amour, mais combien de versets pratiquons-nous? Que Dieu nous aide. Prions Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous voici devant toi. Merci de continuer de nous transformer. Que dans nos foyers, que dans nos familles, que là où nous vivons, que dans nos relations professionnelles, scolaires, en tout cas nos relations sociétales, que tu nous donnes la force de vivre comme des chrétiens, comme des chrétiennes, des hommes et des femmes pétris de la mort de Dieu, et que cet amour continue de progresser en manifestation visible dans nos cœurs et dans nos vies. En Jésus-Christ. Amen.